Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Fronde contre les mesures de restriction sanitaire annoncées par le gouvernement. À Marseille, un appel à manifester est lancé autour du slogan « Non au reconfinement économique ». Vous entendrez l'analyse de Frédéric Dabi de l'IFOP et la réponse au récalcitrant du ministre Olivier Véran. Le regain de l'épidémie de Covid-19 entraîne une tension dans les hôpitaux parisiens. Face à l'afflux de malades, l'APHP annonce devoir reporter jusqu'à 20% des opérations chirurgicales à compter de ce week-end. L'Union européenne doit totalement revoir sa coopération avec les autorités libyennes. Appel lancé par Amnesty International qui a recueilli de nombreux témoignages sur les violences qui subissent les migrants dans un climat d'impunité presque totale. Et puis en Hongrie, les étudiants de l'université de théâtre et de cinéma se rebellent. Ils occupent le bâtiment pour ne pas laisser entrer dans la nouvelle direction nommée par le gouvernement de Viktor Orban. Et ils ont fondé la République des étudiants. Reportage de Florence Labruyère à Budapest. Pour le premier adjoint de Marseille, Benoît Payan, c'est un affront. Pour le président de la région PACA, Renaud Muselier, une décision unilatérale et incompréhensible. Certains vont jusqu'à parler de dictature sanitaire. Bref, la colère monte contre les nouvelles mesures de restriction sanitaire annoncées hier soir par le ministre de la Santé. Et à Marseille, à la pointe de la contestation, un appel à un rassemblement demain devant le tribunal de commerce a été lancé pour dire non au reconfinement de l'économie. Pour Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'IFOP, c'est clair, la priorité des Français aujourd'hui, ce n'est plus la santé, c'est l'économie.
C'est une fronde qui pourrait rencontrer le soutien de l'opinion publique à double titre. D'une part, on a vu sur cette crise du coronavirus à quel point les Français font confiance aux élus locaux. Et il est rare que les élus locaux se plaignent à ce point. Et donc les Français, notamment les habitants du Sud, pourraient leur donner raison. Par ailleurs, la fronde ou le mécontentement des élus locaux, notamment des maires, se focalise sur les questions économiques. Or, force est de constater que depuis quelques semaines, les Français sont plus inquiets s'agissant de la situation économique, des conséquences économiques de la crise du Covid, que des conséquences sanitaires. Donc ces deux facteurs pourraient créer un mouvement de soutien assez fort vis-à-vis de l'opinion publique qui voit comme un véritable spectre la possibilité d'un reconfinement. Et c'est vrai que les mesures particulièrement sévères annoncées pourraient être vues comme une sorte de prélude ou de première étape vers un reconfinement.
Il y a des appels à la désobéissance.
Oui, ce n'est pas rien. Les Français ont été très obéissants, pour reprendre votre terme. Ils ont respecté les gestes barrières. Ils ont accepté cette décision inouïe hors norme de se confiner. Mais là, force est de constater que le climat est un petit peu différent, notamment dans le sud où on a le sentiment de payer pour les touristes venus en masse. Il peut y avoir un mouvement de désobéissance qui pourrait faire contagion. Pour autant, attendons de voir ce qui se passera samedi. Très clairement, on l'a vu sur cette crise, les Français ont été résilients et globalement ont respecté les différentes mesures ou directives émanant des pouvoirs publics. Là où la donne change, c'est que la fronde pourrait être menée par des élus locaux qui capitalisent très fortement sur la bonne gestion de la crise.
Frédéric Dabi de l'IFOP, joint par Antoine Marette. Ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, était entendu par la commission d'enquête sénatoriale sur le Covid-19 et il en a profité pour défendre les mesures annoncées hier soir. Pour Olivier Véran, le principe de responsabilité doit primer lorsqu'il faut protéger la vie des gens. Écoutez-le.
J'entends parfaitement les critiques, j'entends parfaitement les remises en question, j'entends parfaitement qu'un maire ait envie de défendre la vie sociale dans sa commune, les bars et les restaurants. J'entends aussi les maires qui, tout en défendant la vie sociale et la vie économique dans leur commune, me disent « c'est la bonne décision à prendre aujourd'hui pour protéger les habitants parce que ça se passe mal au niveau de la diffusion épidémique ». Donc je ne dis pas que c'est pas dur et je me mets à la place des Marseillais et je sais qu'il y a des gens qui sont en colère. Personne n'a critiqué en Mayenne, au mois de juillet, quand il y avait une reprise épidémique, et qu'on a mis en place des mesures de restriction, de rassemblement, qu'on a mis des mesures de couvre-feu. Personne n'a critiqué ce qui a été fait en Mayenne. Et vous pouvez me rappeler ce qui s'est passé en Mayenne ? En Mayenne, l'épidémie, elle a fait schlack. Et l'impact sanitaire, il a été extrêmement faible. Et j'y suis allé. Et en Guyane, pareil, les mesures de couvre-feu, les mesures de gestion, quand ça commençait à flamber, et on a réussi à enrayer l'épidémie. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire à Marseille, comme sur tout autre territoire de la République. Encore une fois, c'est le seul objectif qui est le nôtre, c'est protéger la santé des Français.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran. La propagation du Covid s'accélère et le nombre de cas graves augmente. Le seuil des 1000 personnes hospitalisées en réanimation a été franchi aujourd'hui. Un seuil symbolique qui fait craindre un retour en arrière et, comme en mars dernier, les hôpitaux débordés. Dans la capitale, Diane Berger, la direction de l'assistance publique Hôpitaux de Paris vient d'ailleurs d'annoncer le report de certaines opérations chirurgicales dès ce week-end.
En effet, le nombre de malades du coronavirus en réanimation augmente de plus en plus dans ces hôpitaux. Ils étaient 50 le 1er septembre. Hier, 132. La courbe monte de manière exponentielle. Bref, aujourd'hui à Paris, un lit en réanimation sur 4 est occupé par un patient atteint du Covid. Et c'est déjà trop, explique François Crémieux, directeur général adjoint de l'APHP.
À compter de ce week-end, la PHP sera contrainte d'organiser les premières déprogrammations avec comme objectif de ne commencer par déprogrammer que des patients dont les interventions chirurgicales ou dont la prise en charge médicale peut être reportée sans qu'il y ait de perte de chance. L'enjeu dans les 15 prochains jours est de ne pas avoir en octobre à franchir un palier de 20 à pas loin de 50% de déprogrammation pour pouvoir libérer des lits de soins critiques pour accueillir des patients Covid.
La direction des hôpitaux de Paris précise qu'on est encore loin de la situation du mois de mars dernier, quand juste avant le confinement, il avait fallu annuler un nombre massif d'opérations chirurgicales. Mais le professeur Rémi Salomon reste inquiet.
On sait lors de la première vague ce que cela a coûté d'arrêter complètement l'activité dite programmée. Et c'est vrai que pour les soignants que je représente ici, c'est extrêmement douloureux, difficile d'avoir à faire un choix si nous arrivons à saturation, de faire ces déprogrammations.
D'autant plus que les médecins n'ont pas réussi à rattraper toutes les opérations annulées du printemps. Alors le professeur insiste, il faut selon lui renforcer les tests, les traçages et l'isolation des personnes positives au Covid-19 pour limiter la saturation des hôpitaux.
Et l'agence européenne qui surveille l'épidémie fait part de son inquiétude pour 7 pays de l'Union, l'Espagne, la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque et Malte. Ce groupe affiche une proportion plus élevée de cas graves ou d'hospitalisations avec une hausse de la mortalité. Le gouvernement français ne compte donc pas revenir sur les mesures sanitaires, mais il promet de nouvelles mesures de soutien aux professions impactées, à commencer par le secteur de l'hôtellerie-restauration, très remonté contre les annonces de fermeture de bars et restaurants, Annabelle Grelier.
Le cauchemar. Alors que 15% des établissements ne se relèveront pas des 3 mois d'inactivité au printemps, selon l'UMIH, le principal syndicat du secteur des hôtels, cafés, bars et restaurants, voilà que sont annoncées de nouvelles fermetures et restrictions. Des mesures injustes et discriminatoires pour son président Roland Egui.
L'ensemble de la profession est chaos debout. Cette décision, une fois de plus, a été prise sans aucune consultation. L'ensemble des organisations professionnelles dénonce encore une fois une mesure injuste, discriminatoire, incohérente et demande à Bruno Le Maire ce retrait immédiat de cette décision.
À Bercy, on promet de nouvelles aides et mesures de soutien qui devraient être précisées très rapidement. À peine de quoi calmer les professionnels qui estiment qu'à minima, l'État devra prendre en charge la totalité de leur perte d'exploitation. La profession est au bord de la rupture, préviennent-ils, menaçant de rompre les travaux et toute coopération avec le gouvernement.
Colère et inquiétude également dans le monde sportif après l'annonce de la fermeture dès lundi des salles de sport dans les zones en alerte renforcée, notamment en Île-de-France. Là aussi, les professionnels estiment avoir mis en place des protocoles sanitaires stricts et ils dénoncent la brutalité des décisions qu'on leur impose. Audience suspendue au procès des attentats de 2015. L'un des 11 accusés présents, Michael Pastor Alouatic, a fait un malaise. Et dans le contexte sanitaire actuel, cela peut bousculer l'organisation du procès. Marie Dosé, son avocate, au micro de Florence Turme.
Ce matin, il avait de la fièvre. Il était très mal. Et puis, des maux de tête. Enfin, des symptômes qui sont compatibles avec une suspicion de Covid. Donc, son état de santé s'aggravant au fur et à mesure de l'audience, on a dû suspendre l'audience. Il a été ramené à Fleury-Mérogis. Il va subir une batterie d'examens. On va essayer de connaître son état de santé plus précisément, le plus rapidement possible. Et puis surtout, je pense qu'on réussira à savoir s'il est ou non contaminé par le Covid cette nuit ou demain matin. En fonction de cela, s'il n'est pas contaminé et qu'il est en état de comparaître devant la cour d'assises, eh bien, le procès se poursuivra. Si par contre, il est contaminé par le Covid, il n'est pas question qu'il puisse revenir devant la cour d'assises. Donc là, le procès va être suspendu parce que nous, ses avocats, ne le représenterons pas. Un accusé doit comparaître devant sa cour d'assises. Donc là, le procès sera suspendu et toutes les conséquences liées à ceux qu'il a pu côtoyer dans le box vont quand même poser de vraies difficultés. Si par contre, ça n'est pas le Covid, mais qu'il n'est pas en état de comparaître eu égard à son état de santé, eh bien, l'audience sera suspendue pendant quelques jours.
Le procès est censé reprendre demain matin à 9h30. Des rassemblements de magistrats dans toutes les juridictions de France cet après-midi à l'appel de l'USM et du SM, les deux principaux syndicats. Un mouvement de protestation directement dirigé contre le garde des Sceaux. La confiance avec Éric politique Dupont-Moretti est rompue, expliquent ces magistrats qui jugent ces récentes décisions visant le parquet national financier puis l'école nationale de la magistrature dangereuses dans un état de droit. Un an après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le ministre de l'Intérieur annonce la mise en place d'un système d'alerte par téléphone mobile en cas de danger pour la population. Le 26 septembre 2019, près de 10 000 tonnes de produits chimiques étaient parties en fumée sur le site classé Seveso et la sirène donnant l'alerte s'était déclenchée 5 heures seulement après le début de l'incendie. Écoutez l'annonce de Gérald Darmanin en déplacement à Rouen.
Si je devais résumer en quelques mots, je dirais qu'au XXe siècle, on est passé du tocsin à la sirène. Et au XXIe siècle, on passera de la sirène donc au téléphone portable. Nous allons déployer sur l'ensemble du territoire national, y compris les territoires ultramarins. Et pour toutes les populations, un système moderne, à la fois de SMS sur le téléphone portable, qui renseignera en temps réel des difficultés et des consignes évidemment à respecter, et également d'un système de cell broadcast, qui n'est pas tout à fait la même chose que le SMS. Et dès l'année prochaine, nous mettrons en place une première partie de ces alertes, notamment dans les zones les plus peuplées, pour un déroulement complet pour 2022 sur l'ensemble du territoire national. 50 millions d'euros, à la demande du président de la République, ont été budgétisés et permettent de se payer pour ce début d'année prochaine déjà les alertes que nous évoquons.
Et les inspections de sites industriels classés vont être renforcées. Dans le cadre du plan de relance de l'économie, l'exécutif ressort un dispositif pour financer les projets sociaux et environnementaux. Olivia Grégoire, la secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, lance aujourd'hui le premier appel à projets, crédité de 10 millions d'euros autour des contrats à impact. Une nouvelle version d'un dispositif lancé en 2016. En quoi cela consiste-t-il, Catherine Pétillon?
L'idée de ces contrats, c'est de faire financer des programmes sociaux et environnementaux par des investisseurs privés. Ces derniers seront ensuite remboursés par l'État en cas de succès des projets, l'évaluation étant faite selon des critères définis au préalable. Le gouvernement présente ça comme une nouvelle forme de partenariat public-privé, social et environnemental. Ce premier appel à projet, ouvert jusqu'au 24 décembre, concerne l'économie circulaire. Il cherche à favoriser des projets concernant par exemple le tri à la source des biodéchets, le gaspillage alimentaire, le réemploi, etc. Il sera porté par l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, et doté de 10 millions d'euros. Suivront, d'ici la fin de l'année, deux autres appels à projets autour de l'inclusion par l'emploi et de la lutte contre le sans-abrisme. Ces trois thématiques étaient préconisées dans le rapport L'Avenir, publié l'an dernier. Il évaluait la première vague d'expérimentation de ce type de dispositif, lancé en 2016, sous le nom de contrat à impact social. Seuls 8 contrats ont été signés, essentiellement par des associations d'insertion. Avec désormais des appels à projets plus thématisés et une organisation administrative simplifiée, l'exécutif espère relancer ses contrats, mais surtout faire avancer politiquement cette approche. C'est, dit-il, une façon vertueuse pour tous de faire de l'innovation et de combler des manques dans des secteurs importants, quand d'autres voient sous une rhétorique de l'innovation une manière de transférer à des investisseurs privés le risque de politique sociale ou environnementale habituellement assurée par l'État.
Catherine Pétillon. Donald Trump n'a pas l'habitude de rendre hommage à des personnes qui ne sont pas de son bord. Le président américain a tout de même fait le déplacement à la Cour suprême pour se recueillir devant la dépouille de Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi dernier. La magistrate était une figure de proue du camp progressiste et Donald Trump, qui veut nommer rapidement une juge conservatrice pour la remplacer, est arrivé devant le cercueil, Grégory Phillips, et là il a été copieusement hué par la foule.
Donald Trump se trouve face au cercueil de Ruth Bader Ginsburg, tout en haut des marches en marbre blanc de la Cour suprême des États-Unis. Le président porte un masque noir sur le visage. Son épouse Melania est un peu en retrait quand soudain on entend les cris monter de la petite foule en contrebas. Vote him out, dégagez-le. Les manifestants crient aussi respecter les dernières volontés de RBG. Quelques jours avant sa mort, la magistrate de 87 ans avait confié à sa petite fille qu'elle ne souhaitait pas être remplacée immédiatement à la Cour suprême tant qu'un nouveau président n'aurait pas prêté serment. Quand il entend ces cris, Trump ne bronche pas, puis il regagne la Maison Blanche. Dans la très démocrate Washington, le président n'était pas le bienvenu ce matin. Lui qui cet été, par exemple, ne s'était pas déplacé jusqu'au Capitole pour l'hommage rendu à John Lewis, figure emblématique du combat pour les droits civiques. La scène ce matin n'a duré que quelques secondes, mais elle montre une Amérique divisée à 40 jours de la présidentielle.
Grégory Phillips à Washington. Au lendemain de la présentation par par Bruxelles d'un nouveau pacte sur la migration et l'asile. Amnesty International appelle l'Union européenne à revoir sa coopération avec la Libye. L'ONG publie un rapport basé sur les témoignages d'une centaine de migrants passés par la Libye, un pays où ils sont confrontés à un terrifiant cycle de violence. Valérie Crova.
Meurtres, viols, tortures, mauvais traitements, travail forcé. Le rapport d'Amnesty pointe les très nombreuses violations des droits de l'homme dont les migrants sont victimes en Libye, et ce dans une impunité presque totale. 8000 migrants ont été interceptés par les gardes-côtes libyens depuis le début de l'année, grâce à l'Europe qui fournit notamment des vedettes rapides et une aide pour la coordination des opérations en mer, pour permettre aux personnes qui tentent de fuir par voie maritime d'être ramenées en Libye. Une fois revenues sur le sol libyen, elles sont le plus souvent enfermées dans des centres de détention dont certains sont illégaux. Plusieurs milliers de réfugiés ou de migrants ont été victimes de disparitions forcées après leur transfert dans des lieux de détention non officiels, selon Amnesty. Certains sont enlevés par des milices ou des groupes armés qui réclament ensuite des rançons contre leur libération. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la pandémie de Covid-19 favorise le racisme dont ils sont la cible. On reproche aux migrants d'être les propagateurs du virus. Le rapport d'Amnesty déplore que l'aide accordée par les États européens, mue par la volonté de stopper à tout prix les arrivées de migrants, ne soit pas subordonnée à des garanties strictes en matière des droits humains. L'Europe doit revoir sa coopération avec les autorités libyennes et ne leur apporter une aide supplémentaire que si elles prennent des mesures immédiates pour faire cesser ces violences, souligne Amnesty.
La position hongroise est toujours stop à l'immigration, fait savoir Viktor Orban. Après une rencontre avec la présidente de la Commission européenne, le Premier ministre hongrois fait savoir qu'il rejette la réforme de la migration et de l'asile proposée par Bruxelles, considérant que ce n'est pas une percée. Et le Premier ministre souverainiste ne change pas de politique. Après avoir supprimé l'autonomie de l'Académie des sciences et expulsé du pays la prestigieuse Université d'Europe centrale fondée par le philanthrope George Soros, Viktor Orban met fin à l'autonomie de l'Université du théâtre et du cinéma, une école prestigieuse vieille de 150 ans qui a formé de grands cinéastes comme Michael Curtis ou Bellatar. Mais ce coup de force d'Orban rencontre une résistance inattendue. La rentrée n'a pas eu lieu. Soutenue par la population qui vient les nourrir et les soutenir, les étudiants occupent l'université. Florence Labruyère.
Liberté pour le pays et pour l'université, c'est ce que réclament les étudiants de l'université de théâtre et de cinéma. Le gouvernement Orban a supprimé l'autonomie de l'université et nommé un ultranationaliste à sa tête. Alors pour ne pas laisser entrer la nouvelle direction, la majorité des élèves occupent le bâtiment situé au centre de Budapest. Ils ont fondé la République des étudiants et organisent les cours eux-mêmes. Bolaj Dohi, un étudiant de 23 ans.
Je suis en colère contre le gouvernement et la nouvelle direction. Ils disent que nous sommes des libéraux arrogants, que les valeurs nationales ne nous intéressent pas. C'est des mensonges.
Pour le gouvernement, la réforme de l'université est purement économique. Zoltan Kiseli, un politologue proche du pouvoir.
La stratégie du gouvernement est de rendre l'enseignement supérieur indépendant. L'université de théâtre a été transférée à une fondation privée qui détient des actions de la compagnie pétrolière hongroise de banque. Comme cela, l'université aura des revenus, elle ne dépendra plus des politiciens ni du budget de l'État.
Des arguments qui ne convainquent pas du tout cet enseignant au département de cinéma, Aaron Saint-Péteri.
Il y a un objectif politique, c'est clair, ils ne veulent plus que cette université fonctionne comme un lieu créatif où les artistes pensent librement. Ils veulent décider de tout, des programmes, du choix des professeurs.
L'étincelle qui a provoqué la colère des étudiants, c'est la nomination à la tête de l'université d'Attila Vidniansky, un metteur en scène ultranationaliste. Sur une chaîne télévisée proche du pouvoir, ce fidèle de Viktor Orban déclare qu'il y a un complot derrière tout cela.
C'est un complot pour renverser le gouvernement. Des forces obscures sont à l'œuvre. C'est terrifiant. C'est une armée de l'ombre, une armée internationale.
Pourquoi Viktor Orban a-t-il placé cet homme à la tête de l'université? Explication d'un enseignant, Maté Gaspard.
Le Premier ministre ne supporte que des personnages qui imitent et suivent très fidèlement et qui en fait transmettent la logique et le fonctionnement de son pouvoir dans chaque secteur de la société. Et c'est pourquoi l'enseignement est vraiment très important, parce que ils pourront influencer le futur et assurer que ces logiques et fonctionnements perdurent pendant très longtemps.
Les étudiants, eux, résistent avec bonne humeur. Ils organisent des spectacles et des manifestations de rue. Ils demandent que leur université retrouve son autonomie.
Un reportage de Florence Labrouillère à Budapest. Temps perturbé demain sur l'ensemble de l'Hexagone. Il neigera sur les Alpes du Nord et les Pyrénées. Les Pyrénées-Atlantiques sont placées en vigilance orange pluie, inondation. Pas de pluie sur les régions méditerranéennes, mais il y aura du vent. Température en baisse de 6 à 15 degrés le matin, 11 à 16 l'après-midi sur la moitié nord et le massif central, 14 à 20 au sud. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.